en attendant les conclusions du grand débat national. Retour sur une question mise à l'ordre du jour en janvier dernier par l'exécutif, celle de la laïcité, valeur primordiale, synonyme de liberté pour le président dans sa lettre aux Français. Elle a été inclue, cette question, dans la rubrique pratique de la démocratie et de la citoyenneté, et finalement préférée à un débat sur l'identité de la nation. Alors, quelle exception française, quelle place aussi pour cette question, pour la laïcité, pour ce principe dans le consensus républicain, dans l'actualité des idées aujourd'hui, une histoire de la laïcité avec notre invité, le politiste Philippe Reynaud, professeur à l'université Paris 2. Après la fin de l'école républicaine, trois révolutions de la liberté et la politesse des Lumières, il publie aujourd'hui chez Gallimard « La laïcité, histoire d'une singularité française ». Bonjour Philippe Reynaud.
Bonjour.
Athée ou croyant, Notre-Dame est notre cathédrale commune. Ces mots sont de Jean-Luc Mélenchon, de la France Insoumise, dans une lettre publiée lundi soir sur son site « Soir de l'incendie de Notre-Dame de Paris ». Autre version, autre mot, Notre-Dame n'est pas une cathédrale, c'est notre bien commun. Ça, ce sont ceux du ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Notre-Dame de Paris, est-ce que c'est pour vous un monument qui a été presque laïcisé dans cette dernière semaine ?
D'abord, il est un peu difficile de dire que ça n'est pas une cathédrale. C'est aussi une cathédrale. Moi, je dirais que Notre-Dame n'a pas été laïcisée cette semaine, parce que ça fait longtemps qu'elle l'a été. Beaucoup de gens se réfèrent au roman de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, qui a beaucoup fait pour la gloire de la cathédrale, et dont une des idées directrices, c'est que c'est un monument national, et c'est même, pour Victor Hugo, l'illustration d'une architecture nationale, et qu'il oppose à celle de la monarchie absolue, etc. Et c'est la gloire de Notre-Dame de Paris est évidemment très ancienne comme lieu de culte, mais comme lieu national, c'est en grande partie quelque chose qui s'est développé au XIXe siècle. Après tout, sous l'Ancien Régime, le cœur religieux de la France, ou de la monarchie du moins, c'est plutôt la cathédrale de Reims que la cathédrale Notre-Dame de Paris.
Le catholicisme est l'un des registres de l'expression du sentiment national. Ça, c'est l'historien Patrick Boucheron qui le disait ce matin chez nos confrères de France Inter. Est-ce qu'il faut pour vous le déplorer, Philippe Reynaud ?
Pourquoi déplorerait-on ? Moi, je ne dirais pas que le catholicisme est une... Enfin, la formule me paraît étrange. Je pense qu'il y a une composante catholique de la culture française qui est tout à fait évidente. Il y a un rôle d'ailleurs matriciel dans l'histoire française du catholicisme et de son conflit avec d'autres forces à travers les guerres de religion et à travers le long conflit qu'il a opposé à la laïcité, aux Lumières françaises, à la laïcité. C'est une composante sans aucun doute de l'histoire de la nation française majeure. Ça ne veut pas dire que la France est catholique éternellement.
Et c'est cette histoire aussi, hein, des relations entre l'État et la religion et le catholicisme que vous nous racontez à travers le principe de laïcité, cette laïcité, histoire d'une singularité française. Et vous racontez notamment comment France catholique et France républicaine ont longtemps été en conflit. Donc dernière question sur ce ressenti, comme la manière dont vous avez pu percevoir les réactions depuis une semaine, depuis le feu qui s'est déclaré dans Notre-Dame de Paris. France catholique et France républicaines peuvent se retrouver autour de certains symboles dans un même élan. C'est comme ça que vous avez vécu, vous, cette semaine écoulée ?
Oui, sans doute. Je pense que là on a un événement qui a touché la très grande majorité des Français, avec évidemment une signification particulière pour les catholiques, parce que, quoi qu'en dise le ministère de l'Intérieur, c'est aussi une cathédrale et un lieu de culte majeur d'ailleurs au sein de la chrétienté. Mais il me semble que ce qui s'est retrouvé en l'occurrence, c'est un ensemble de sentiments qui sont partagés en France, qui étaient partagés en France au début du XXe siècle, et qui font que je pense que derrière le conflit très violent entre les catholiques et les laïcs, il y avait quelque chose qui se passait à l'intérieur d'une histoire nationale qui continuait, dont les les deux parties étaient parties prenantes.
Alors, retour aux sources avec vous, puisque dans ce livre, vous revenez sur les origines de notre laïcité, quand la puissance royale commence à se libérer, à s'émanciper aussi de l'Église et de l'autorité religieuse, de l'édit de Nantes jusqu'à la Révolution. C'est une longue histoire que vous racontez là, mais peut-être en revenir à la naissance, pour vous, du mot même et du principe de laïcité. Vous dites que c'est une laïcité presque de combat réactive qui s'est mise en place, en réaction aux guerres de religion.
À l'époque, on ne parle pas de laïcité, on parle de la royauté, on parle de la monarchie. Moi, je pense en effet que si on veut comprendre la singularité française dans cette histoire, il faut partir des guerres de religion qui sont, si j'ose dire, le bien commun, si on peut dire, de toute l'Europe occidentale. C'est un conflit qui a traversé toutes les grandes nations d'Europe occidentale et qui est à l'origine du développement de la tolérance qui est apparue progressivement comme la solution qui s'imposait si on voulait sortir de ces conflits interminables. La tolérance, au départ, d'ailleurs, étant un terme assez péjoratif. Ce qu'on tolère, c'est quelque chose qui est, intrinsèquement n'est pas bon, mais qu'on ne peut pas faire autrement que tolérer. La tolérance s'est imposée progressivement, mais pas de la même manière partout. C'est-à-dire que je pense que la singularité française, c'est en effet le rôle central qu'a joué l'État monarchique dans cette affaire, qui, à la fin des guerres de religion, n'a pas renoncé à être une monarchie catholique, puisque la condition de l'accès d'Henri de Navarre au trône de France, c'est sa conversion au catholicisme, mais qui choisit d'instituer un régime de coexistence entre les réformés et les catholiques, avec un certain nombre de privilèges pour les réformés, et il le fait de par l'autorité du roi, et suivant une doctrine qui, me semble-t-il, a été élaborée avant Henri IV, pendant les guerres de religion, par les gens qu'on rattache en général à ce qu'on appelle, par commodité, le parti des politiques, dont le meilleur orateur, c'est probablement le chancelier Michel de l'Hôpital. Et ce qu'on voit apparaître chez Michel de l'Hôpital, par exemple, c'est l'idée que on peut être bon français sans être bon chrétien. Et ce qui se fait par la même occasion, c'est quelque chose qui, d'une certaine manière, accentue le transfert de sacralité vers l'autorité du roi, mais en faisant que le roi, qui est le roi très chrétien, peut décider que son royaume inclut un certain nombre de sujets qui ne le sont pas, et qui sont néanmoins reconnus comme pleinement des sujets. C'est quelque chose de très différent de ce qui se passe dans le monde anglophone ou de ce qui se passe en Hollande, où la tolérance s'est imposée à partir d'une évolution interne des églises protestantes, et d'ailleurs n'a pas empêché, par exemple en Angleterre, des mesures d'exclusion très fortes contre les catholiques, alors qu'ils n'étaient pas faites au nom de l'orthodoxie religieuse, mais au nom du patriotisme britannique, c'est-à-dire que les catholiques n'étaient pas brûlés comme hérétiques, ils étaient simplement étripés comme traîtres. Mais enfin, le résultat n'était pas forcément très bon.
1789, autre date clé. Est-ce que c'est cette même tolérance, pour reprendre ce terme que vous avez employé, qui va présider, conduire à l'inscription dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de la liberté d'opinion religieuse et de la liberté d'expression, à cette combinaison de principes qui, pour vous, va marquer quand même le passage de l'État traditionnel de catholicité à un état de liberté aussi?
Oui, alors c'est très très difficile le moment 89, parce qu'on a, disons, l'éclatement d'un conflit qui avait été sous-jacent pendant tout le XVIIIe siècle. Parce que pendant tout le XVIIIe siècle, je dirais que la majorité des Lumières françaises avait tablé sur un projet qui était un projet de conquête de l'intérieur, de l'État monarchique qui aurait permis de revenir à un état de à un édit de Nantes amélioré, de faire quelque chose d'assez comparable à ce que faisait Joseph II en Autriche, et qui connaissait d'ailleurs un début de réalisation avec la tolérance pour les protestants décrétée par Louis XVI au début de son règne. Mais 89 va précipiter les choses. Et je pense d'ailleurs que ce qui est à l'origine du conflit, c'est moins le problème de la liberté religieuse que le problème général de la source de la loi, c'est-à-dire que ce que proclame la Déclaration des droits de l'homme, c'est pas simplement la liberté d'opinion, même religieuse, mais c'est le fait que les lois sont faites par les hommes. Je crois que c'est très clairement ce qui est considéré comme assez maléfique par la papauté.
Oui, d'ailleurs, vous l'écrivez aussi, cette contre-révolution catholique ne dit d'ailleurs pas autre chose, qui voit dans la négation des droits de Dieu par les droits de l'homme le vrai sens de la révolution.
Hein. Oui, je crois que c'est quelque chose qui est très important. Et l'autre chose très, très importante, c'est que les hommes de 89, qui à mon sens étaient beaucoup moins antichrétiens ou antireligieux qu'on ne le croit, pensaient de manière un peu naïve qu'ils pourraient poursuivre pour le compte d'abord de la monarchie telle qu'il la concevait, ensuite de la République, la politique qui avait été celle de la monarchie absolue, c'est-à-dire une politique gallicane. Et il pensait qu'il pourrait bénéficier à l'égard de Rome des mêmes libertés qu'avaient revendiquées le Louis XIV et les autres rois de France. Le problème, c'est que il proposait une réorganisation de l'Église catholique qui était totalement en contradiction avec la logique romaine. Puisque les évêques devaient être élus par des citoyens, même catholiques. Enfin, on entrait dans quelque chose qui était vraiment tout à fait différent de ce que pouvait, me semble-t-il, admettre l'Église catholique. Ils avaient un projet qui était une sorte d'anglicanisme français, si vous voulez. On peut interpréter le gallicanisme de cette manière-là. Ça ne pouvait pas marcher, pour le dire simplement. D'autant moins que s'est greffé sur cette affaire les questions des propriétés de l'Église, qui, dans la logique révolutionnaire, devenaient nécessairement des propriétés d'État à partir du moment où les fonctions de charité publique, qui étaient celles des Églises, étaient réellement publiques. Elles n'avaient donc pas à dépendre d'institutions qui n'étaient ni publiques ni privées. Tout cela s'est traduit par un conflit qui était sans doute difficile à éviter, qui aurait pu être, comment dire aujourd'hui, assez vulgairement géré de manière un peu meilleure de part et d'autre. Mais je crois que, en effet, la Révolution française nous a fait entrer, devait sortir de l'État catholique pour entrer, et me semble-t-il définitivement, dans un État qui est laïque, parce qu'il a cessé de dépendre en principe de la vérité catholique pour mettre au premier plan la liberté religieuse. C'est le déplacement du curseur qui est décisif et qui fait d'ailleurs qu'on n'est plus simplement dans un régime de tolérance. Il faut organiser la liberté, ce qui se fait en l'occurrence dans les premières années de manière assez chaotique et de manière, il faut bien le dire, assez contraignante à l'égard de ce qui reste de l'Église catholique.
Et en ce sens, le concordat, le compromis napoléonien qui va suivre au début du 19e, un siècle avant la loi de séparation de l'Église et de l'État, va s'inscrire pour vous dans une continuité de l'histoire ou apporter quand même une nouvelle rupture ?
Je dis que c'est, d'une certaine manière, c'est un édit de Nantes qui a réussi, enfin... qui ne s'est pas terminé de la manière tragique dont s'est terminé l'édit de Nantes, avec quand même quelque chose en plus, c'est que l'édit de Nantes maintenait l'idée que la France était un royaume catholique. C'était un royaume catholique dans lequel les non-catholiques avaient des droits, c'est ce qu'on peut dire. La France n'est... Le catholicisme pour Napoléon III n'est plus qu'un la religion de la majorité des Français, ce qui est tout à fait différent, ce qui est beaucoup plus relativiste. Et si le premier consul est représentant, c'est pas parce qu'il est sacré. S'il est catholique, c'est parce qu'il est le représentant le plus éminent de la nation française. Et quand il va devenir empereur, d'ailleurs, quand il se fait sacré, il le fait à Notre-Dame de Paris et non pas à Reims, et selon un rituel qui n'a plus rien à voir avec le rituel traditionnel des rois de France, et dans lequel c'est lui-même qui pose sa couronne sur la tête. C'est une affirmation de souveraineté nationale, même le sacre de l'Empire, de l'Empereur, si vous voulez.
Le visage de la France laïque, tel que nous la connaissons, se dessine sous la Troisième République, va advenir cette loi de 1905. Quelle séparation va-t-elle acter pour vous ?
La loi de séparation, je crois, doit être vue comme, en effet, l'aboutissement de quelque chose qui a, bon, dont les premières origines se trouvent avec la Révolution, mais qui commence surtout avec la Troisième République, avec les grandes lois laïques. C'est le couronnement des grandes lois laïques qui ont déjà laïcisé beaucoup de services de l'État, c'est-à-dire les hôpitaux, l'école, le calendrier, enfin le dimanche a été restauré, mais n'est plus considéré comme un jour de culte. Enfin, c'est simplement un jour de congé. Enfin, il y a la France est déjà laïque avant 1905, mais la loi de 1905, c'est la solution à un problème qui était probablement insoluble sans elle, qui était celui du statut des cultes à l'intérieur d'une république qui n'avait pas d'identité religieuse reconnue. Et c'est un moyen, je dirais, de libérer l'État de toute emprise de l'Église catholique, de la part de l'Église catholique, tout ce qui pouvait maintenir l'emprise passée, et de le faire en libérant l'Église de la tutelle de l'État, puisque c'est cela qui est proposé aux catholiques. Et ça succède d'ailleurs à une période de conflit très très vive, qui est symbolisée par le ministère d'Émile Combes, qui est considéré comme l'abomination de la désolation dans une certaine tradition catholique, mais dont il ne faut pas oublier justement qu'Émile Combes voulait maintenir le concordat, au moins pour un certain temps, parce qu'il considérait que c'était le moyen, comme on désignait les évêques, comme on avait un certain nombre de moyens de pression sur l'Église, c'était un moyen de maintenir une tutelle dont l'Église serait libérée avec la loi de 1905. Il se trouve que la loi de 1905 donc est une loi de paix civile et de liberté dans l'esprit de ceux qui l'ont faite. Mais il faut ajouter que l'Église catholique a mis un certain temps à le comprendre et à l'admettre, qu'elle a d'ailleurs, à mon sens, perdu un certain nombre d'avantages du fait de son intransigeance à ce moment-là. Les compromis auraient pu lui être plus favorables. Mais ce qu'il faut aussi ajouter par rapport à une vision un peu trop pyrénique qu'on a des choses aujourd'hui, c'est que si la République est assez généreuse et magnanime en 1905, c'est parce que les forces qu'elle appelait cléricales ont été battues à plate couture dans les années qui précèdent. C'est-à-dire que l'Église catholique, dont les libertés sont organisées, a été réellement vaincu dans le conflit précédent, qui s'est traduit quand même par le départ de dizaines de milliers de prêtres ou de membres des congrégations qui sont allés enseigner en Belgique ou au Canada, parce que la France ne leur reconnaissait plus le droit de le faire dans l'école publique. Bon, c'est une affaire qui n'a pas été si douce que cela.
Mais là, Philippe Reynaud, on est aussi au sommet de l'État et de l'Église. Est-ce que cette loi de séparation va aussi être en phase avec les mentalités et avec la société? Il faut se souvenir, puisqu'on parlait de Notre-Dame de Paris, que c'est aussi Victor Hugo qui, en 1885, 20 ans avant la loi de séparation, ne souhaitant pas, par voie testamentaire de cérémonie religieuse, va recevoir avoir un éloge funèbre laïque, hein, et sa dépouille ne passera pas par Notre-Dame de Paris. Et ça, c'était 20 ans avant, 1885. Hein. Est-ce que cette loi était en phase avec les mentalités de l'époque ?
Disons qu'elle était, comme toutes les bonnes lois réformatrices, elle était légèrement en avance sur les mentalités. C'est-à-dire qu'elle était, elle était suffisamment, suffisamment en avance pour avoir un sens de transformation profonde, mais elle a été adoptée avec, avec un sens politique, d'ailleurs très, très, très fort. C'est un des... c'est vraiment la loi de 1905 qui est un des chefs-d'œuvre de la Troisième République, et c'est d'ailleurs un admirable exemple de ce que peut faire le parlementarisme à son meilleur. C'est une loi qui a été discutée, préparée, négociée pendant des mois, dans lesquels le Parti républicain a fait beaucoup de concessions qu'il n'envisageait pas au départ, et a très habilement joué sur le fait que certains opposants étaient un peu plus modérés que d'autres. Enfin, c'est une très belle réussite politique, et dont il faut ajouter d'ailleurs qu'elle a été acceptée, me semble-t-il, parce que elle laissait de côté, même si l'Église catholique ne l'acceptait pas, enfin, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en 1905, l'Église catholique n'accepte pas, parce que, notamment parce que la papauté dénonce cette loi comme intrinsèquement mauvaise, mais les catholiques... les catholiques du suffrage universel, comme disait Émile Littré, ont assez rapidement compris qu'ils n'y perdaient pas grand-chose, puisque l'enseignement religieux était possible. Il y avait une journée qui était dégagée toutes les semaines pour cela, que certes, l'État était propriétaire des édifices religieux, des édifices du culte, mais le culte était entièrement entre les mains de l'Église catholique. Enfin, et d'autre part, la République a été très progressive dans l'installation de certaines mesures, si vous voulez.
Invité de la grande table aujourd'hui, Philippe Reynaud, à l'occasion de la parution de son essai « La laïcité, histoire d'une singularité française », c'est chez Gallimard dans la collection « L'esprit de la cité ».
France Culture, la grande table, Olivia Gesbert.
Cette histoire, Philippe Reynaud, suffit-elle à expliquer le caractère singulier de notre laïcité française ? Vue de l'étranger, vous le rappelez, elle est parfois perçue comme une idéologie autoritaire dirigée contre les minorités qui refusent l'assimilation imposée par une France xénophobe. Vous évoquez notamment les mots du New York Times, par d'autres aussi comme un dogme anti-religieux hérité des Lumières. Est-ce que cette histoire révèle ou suffirait à expliquer ce que certains considèrent comme la dimension illibérale de notre République?
Je crois qu'il y a là, disons, un malentendu, enfin pour le dire de manière relativement aimable, qui est très, très ancien entre les pays de culture anglaise, américaine, etc., et la France, qui prolonge d'ailleurs une vieille rivalité franco-anglaise qui est devenue franco-américaine un peu plus tard, où ces deux grandes nations qui sont un peu la matrice de la démocratie libérale en Europe, l'Angleterre et la France, se sont toujours accusés mutuellement de toutes sortes de défauts, et je pense qu'il faut intégrer cette querelle sur cette longue durée. En tout cas, je crois qu'il est l'idée, disons, d'une laïcité qui serait une entreprise de destruction de la religion pour installer un régime d'athéisme obligatoire, qui est une idée qui reste présente. Un grand historien comme Pierre Chaunu considérait que c'était le fond de la laïcité française. Je crois qu'elle est inexacte, qu'elle décrit des positions qui, à l'intérieur du camp républicain, ont toujours été minoritaires, c'est-à-dire c'est les héritiers d'Hébert pendant la Révolution française, du culte de la raison, qui effectivement avait un aspect de fanatisme anti-religieux réel. Il y a des gens qui défendent une position disant qu'il faut organiser la destruction du christianisme. Il y a encore des gens qui défendent cette position en 1905, mais ils ont toujours été vaincus par dans le parti républicain à partir du consulat, me semble-t-il. Ces positions sont extrêmement minoritaires. Mais ce qui en revanche est vrai, c'est que les Lumières françaises ont été en conflit ouvert avec le christianisme parce qu'il n'y avait pas la médiation protestante qui a joué de manière très très large en Grande-Bretagne et par la suite aux États-Unis. Et ce qui est également vrai, c'est que la laïcité française a toujours défendu non pas simplement la liberté religieuse, mais la liberté de ne pas avoir de religion. Ce qui est quelque chose qui est, me semble-t-il, c'est maintenant évidemment admis, mais qui a été longtemps un peu plus difficile à admettre dans un pays comme les États-Unis. Je me souviens que dans un de ses romans, Philip Roth explique, c'est le point de vue de son héros, qui comprend que dans le collège universitaire où il vient d'arriver, on peut avoir la religion qu'on veut du moment qu'on a une religion. Bon, ça n'est pas l'esprit de la laïcité française qui certainement fait plus de place aux incroyants que d'autres.
Vous dites d'ailleurs qu'aujourd'hui, tout le monde se dit laïque, tous les responsables politiques de tous les bords, qu'ils sont avec une défense ou une vision de la laïcité qui aussi et qui diverge en fonction de leur positionnement sur l'échiquier et de ce qu'ils entendent couvrir ou défendre à travers cela. D'un côté, clé de la réussite à venir de l'intégration, de l'autre, obstacle à la compréhension des problèmes posés par l'arrivée d'une nouvelle religion. Il y a un nouveau défi qui se poserait aujourd'hui à la laïcité à la française, c'est la place de l'islam dans la société. Elle est redevenue un enjeu majeur, cette laïcité, avec l'affaire du foulard islamique au collège. C'était à la fin des années 80, la fameuse affaire de Creil, avec l'apparition d'une nouvelle laïcité contre l'islam pour certains. Et c'est notamment l'opinion, l'avis de l'historien Jean Bobéraud qui revient dans les mots que vous allez entendre sur les finalités du principe de laïcité et donc sur sa définition dans ses rapports avec l'État.
Il y a deux finalités principales. La première finalité, c'est la liberté de conscience comme liberté publique dont tous doivent bénéficier, que l'on croit ou que l'on ne croit pas. La seconde finalité, c'est l'absence de discrimination pour raison de religion et de conviction, l'égalité des citoyens devant la loi. Ça, c'est les deux finalités. Et puis, il y a un moyen. Le moyen, c'est que l'État soit un arbitre, donc il soit neutre, mais pas une neutralité indifférente. L'arbitre qui rappelle les règles, mais il est ni pour ni contre. Il est pour l'observation des règles par chaque camp. Mais c'est l'arbitre. Il permet aux gens de jouer. Et il faut pas que les joueurs soient neutres. L'État est laïque pour que les citoyens puissent bénéficier de la liberté de conscience, puissent bénéficier de l'égalité citoyenne. Et évidemment, chacun doit respecter les convictions et les non-convictions, je dirais, de l'autre. Et il faut bien se rendre compte que quand on pense dans l'engrenage de la limitation des libertés publiques, cet engrenage, il n'a pas de fin. Et chacun peut se trouver menacé, finalement. Si on impose des codes vestimentaires, où on va s'arrêter? Et quand cette loi de 2004 a été prise, je pense que si on avait dit aux gens que du coup on allait juger la longueur des jupes à l'école ou des choses comme ça, les gens auraient été horrifiés à l'époque.
Public-privé, Philippe Reynaud, vous revenez aussi sur cette distinction. Qu'est-ce qu'il faut entendre par neutralité de l'État sur cette question?
Je crois que c'est une querelle en partie verbale, en partie sophistique que fait là Jean Bobéraud, qui avait fait partie de la commission qui a abouti à la loi de 2004 et qui est le seul membre de cette commission qui refusait d'endosser les conclusions qui l'ont été par des gens aussi peu fanatiquement autoritaires qu'Alain Touraine ou René Raymond. Mais je crois que l'erreur, me semble-t-il, ici, Elle est double. D'abord, elle est de faire comme si l'État était simplement un arbitre. Ça n'est pas simplement un arbitre. L'État est aussi celui qui fixe les règles du jeu. En général, l'arbitre ne fixe pas les règles du jeu. La loi de 1905, c'est un acte de souveraineté de l'État qui a défini ce que devait être la place des religions. Et qu'il a fait en prolongeant une politique, la politique républicaine de des premières décennies de la Troisième République, dont l'objet n'était pas simplement la séparation de l'Église et de l'État, d'ailleurs qui au début n'était pas au programme direct. L'objet, comme le disait Jules Ferry, ça n'était pas simplement l'État, c'était aussi le fait d'empêcher que une partie de la société religieuse puisse opprimer le reste de la société. Et je crois que si on admet cette formule, qui me paraît beaucoup plus juste, enfin plus inclusive, plus ambitieuse, si vous voulez, que la simple formule rituelle de la séparation de l'Église et de l'État, on comprend très bien que les frontières de ce qui est licite et illicite ne sont pas définitivement fixées. Et j'ajouterai également que dans un pays qui ou dans lequel les services publics, le poids économique de l'État est beaucoup plus important qu'il ne l'était en 1905, on ne peut pas se contenter de reprendre les formulations de 1905. Après tout, par exemple, l'État s'est mis à subventionner l'école catholique au terme de conflits assez compliqués. Il l'a fait inversement en fixant des règles qui donnent des limites à ce que peut faire l'Église à l'intérieur de son système d'enseignement. L'État a élargi les possibilités offertes à un certain nombre de cultes dans l'espace public. Le rôle de régulation, si vous voulez, est beaucoup plus large qu'il ne l'était en 1905. Et en l'occurrence, il ne s'agit pas d'ailleurs de liberté vestimentaire. En 2004, il s'agit des signes religieux dans un contexte d'ailleurs limité qui est celui de la scolarité obligatoire.
Mais aujourd'hui, il nous reste une minute. Aujourd'hui, tous ces débats qui traversent cette question, ce principe, cette valeur de laïcité montrent que c'est une laïcité qui est encore en vie, en mouvement et qui va continuer à se définir et à se redéfinir pour vous ?
C'est ce que j'espère et c'est ce que je pense. Oui, je pense que c'est une des formules de l'esprit républicain français qui va avec la devise républicaine, avec un certain nombre de choses et qui font partie de, comme on dit aujourd'hui, de l'ADN de notre République. Mais dont la définition n'est pas fermée, bien sûr.
Qui est ouverte à toutes les religions, qui ne va pas être excluante, parce que vous posez cette question du rapport de la laïcité
si
avec
vous voulez,
l'islam.
La laïcité n'exclut aucune religion, mais...
Elle ne devrait pas.
Non, elle n'exclut aucune religion, mais elle n'autorise pas n'importe quel comportement sous prétexte qu'il est ordonné par une religion. Ça a toujours été comme ça.
Merci beaucoup, Philippe Rédeau. La laïcité, histoire d'une singularité française. Votre ouvrage vient de paraître chez Gallimard dans la collection L'Esprit de la Cité. Un grand merci aussi à toute l'équipe de la Grande Table, à Maya Neskovic et à Laura Dutèche-Pérez, à Oriane Delacroix et à Henri Leblanc pour la programmation et la préparation de cette émission à la réalisation aujourd'hui. C'était Marie Placet avec Jacques Hubert. Très bel après-midi à tous sur France Culture.